Phil PM. La voie est libre.
Je ne serai pas de la marche vendredi, mais on s'est promis une rencontre, par contre, dans les prochains jours avec les organisateurs. Le canal de communication est bien ouvert avec de beaux échanges avec les groupes en question.
C'est le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, donc qui s'exprimait mercredi, là, et donc il ne se cachait pas du fait qu'il serait pas à la grande marche qui est en cours présentement pour le climat. Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard, je me suis demandé à un moment donné si on devrait appeler ça la marche des carrés verts, là, mais notre bien-aimé recherchiste vient de me rappeler qu'à l'époque où toi tu portais le carré rouge, ceux qui portaient le carré vert, c'est parce qu'ils étaient en faveur de la hausse, c'est ça?
C'était ceux qui étaient en faveur de la fin de la grève. Ils souhaitaient avoir accès à leurs cours. Ils voulaient avoir accès aux cours.
Alors là, la couleur verte a été volée. C'est fini. On pourra plus. Non. Alors écoute, ce que je veux dire là-dessus, moi, c'est que c'est toujours enthousiasme. Oui, Bernard, tu l'as mis.
Non, mais c'est parce que moi, j'ai hâte d'entendre la voix. Luc Lavoie me dit qu'il est favorable à une manif. Moi, là, j'ai hâte d'entendre ça. Je suis tout oui. Es-tu favorable à la manif en cours pour le climat, lui, là, Luc Lavoie, là?
Il est ni pour, ni contre.
Maudit pissou, tabarouette!
C'est parce que, regarde, je suis toujours enthousiasmé quand je vois une jeunesse idéaliste qui, pacifiquement, va s'exprimer en prenant la rue. C'est un peu différent des carrés rouges avec les balles de billard qui étaient tirées dans les vitrines.
Mets-nous du violon, ouais, un petit peu de...
Non, mais Bernard, je suis prêt à ressortir ma casserole. J'ai une photo de moi-même qui tapait sur les casseroles. Oui. J'étais pas au courant pourquoi je tapais, par exemple, mais ça,
Vente-toi-en pas, OK? Vente-toi-en pas. Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas entendu l'histoire, à un moment donné, Luc voyait du monde autour de lui qui manifestait avec des casseroles. Il trouvait que c'était cool. Il a sorti la casserole, il s'est mis à jouer de la casserole, mais il savait pas pourquoi jouer de la casserole.
Ça l'a fait parce que je vivais à Toronto. Je venais d'arriver de Toronto. J'entends bidding, 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 bidding. Je dis que c'est ça. Je me souviens, ma blonde me dit, c'est comme l'aiguiseur de couteau qui passe. Ben, l'aiguiseur de couteau, ça en faisait du bling-bling. Je sors dehors, j'étais dans le Mile End. Je vois toutes sortes de monde avec des casseroles. Je me précipite à l'intérieur, je ramasse une casserole, je me mets dans la gang, puis je tape moi aussi. Mais j'étais pas au courant pourquoi, Bernard. Je le savais pas. Une fois de retour à Toronto, 48 heures plus tard, à l'heure des casseroles, juste pour mettre un peu de divertissement dans l'air à Toronto, je sortais sur le balcon de mon appartement puis je tapais sur une casserole. Il y en a qui se demandaient pourquoi. J'ai dit, ils vont finir par le comprendre. Oublie pas qu'à l'époque, ces gens-là, à Toronto, n'étaient pas au courant que Bernard Drainville tapait sur les casseroles. Puis
non, il était pas au courant, définitif.
Puis Pauline Marois aussi, je te dis que l'image de Pauline Marois qui tapait sur une casserole, c'était bon, ça l'a aidé énormément. Bon. C'était très
refermons
bon.
Refermons cette parenthèse.
Bon, alors moi,
dis-moi les jeunes aujourd'hui qui manifestent pour le climat puis qui ont même séché le cours. Et dans certains cas, ils sèchent le cours depuis plusieurs vendredis après-midi. Ça fait quelques semaines dans certains cas, là, des écoles à Montréal. Es-tu pour ou contre ça, toi?
Je trouve que si c'était mon fils ou ma fille, je dirais, tu vas aller à l'école, comprends-tu? Et j'espère surtout que les professeurs, parce qu'on entend dire qu'il y a bien de la complicité, n'iront pas faire corriger les examens de fin de session ou de fin d'année en tenant compte de ça.
C'est pas aujourd'hui que tu vas me surprendre.
Non, il y a quand même des limites, là. Qu'une bonne fois, tu choisisses un samedi de prendre la rue, on verra s'ils sont aussi disponibles le samedi qu'ils le sont quand ça correspond à une journée de congé pour eux.
Ah, OK.
Tu comprends?
Toi, tu penses qu'ils sont davantage attirés par le foxage, comme on dit en bon français, de leur cours, le séchage
en
bon français?
Ben oui.
Que la cause.
Oui, tout à fait. Puis il ne faut jamais oublier une caractéristique de la jeunesse que toi et moi avons connue il y a quand même un certain temps. C'est le conformisme de la jeunesse, contrairement à ce qu'on aime répandre. C'est-à-dire que quand tu es un adolescent, tu veux ressembler aux autres adolescents. Alors, présentement, le combat de l'heure, c'est le combat climatique. Alors, ils sont embarqués dans ça. La plupart d'entre eux ne savent pas trop exactement de quoi ils parlent, mais
ça fait rien.
C'est cool.
Je pense que tu t'avances sur un terrain glissant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui savent très bien pourquoi ils sont là aujourd'hui.
Tant mieux. Mais... Et surtout, ce que je constate, parce qu'elle est en train de se dérouler, la manif, elle se déroule un peu partout au Québec. Là.
Ouais,
il est inclus dans mon patelin natal, la Rimouski. Ce que je suis heureux de voir, c'est l'aspect pacifique de l'affaire. Pas de conneries comme lors des tapeux de casserole, puis des Pauline Marois, puis Bernard Drainville avec des corps. On n'en veut plus de ça.
Bon, là, allons à l'autre question. Puis c'est là-dessus que je vais vouloir entendre les auditeurs. Est-ce que pour toi, c'est un bon coup ou un mauvais coup que la CAQ ait décidé, mais non seulement ils n'ont pas envoyé leur ministre de l'Environnement à la marche, il n'y a aucun député de la CAQ qui participe à la marche contre le réchauffement de la planète pour le climat, peu importe l'endroit au Québec, puis des marches, il y en a partout au Québec présentement, il n'y a aucun député de la CAQ qui va y participer. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais coup, ça, pour toi?
Je dirais que c'est un mauvais coup. Bon. Si ce n'est que parce que ça aurait été pour eux une façon de banaliser, en quelque sorte, l'affaire, de dire « on est tous dans ce combat-là ». Ce qu'ils ont fait, c'est un jugement politique basé sur leur lecture de ce qu'est leur base électorale. Et leur base électorale, ben, n'est pas dans le combat sur le climat. Ils savent très bien que ce territoire-là est complètement occupé. Pas complètement, mais largement occupé par Québec solidaire, dont les 10 députés sont dans les marches. Et que si même chez les libéraux, il y avait une aile assez écologiste aussi,
oui. Ben oui.
Dont M. Couillard était le leader.
Et tous les députés du PQ en passant en marche aussi aujourd'hui.
Ils sont neuf, là. Ils sont plus comme...
Oui, ils sont rendus neuf à ce temps.
Oui, c'est ça. Ben, peut-être que Catherine y a été avec Jean-Martin.
Ça se pourrait.
Ça ne serait pas surpris. Je ne serais pas surpris.
Elle est allée au théâtre avec. Peut-être qu'elle marche aussi avec.
Peut-être qu'elle marche avec.
Alors, écoute bien. 790-9850. Moi, je veux savoir, là, le fait que la CAQ n'ait pas envoyé personne dans cette marche-là, est-ce que ça vous défrise? Est-ce que ça vous choque? C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Parce que, Luc, tu as raison. Moi, je pense qu'ils ont fait un calcul politique. Et puis, ils ont décidé de pas... Peut-être, d'une certaine façon...
C'est le mauvais calcul.
C'est le mauvais calcul pour toi, là.
Ben oui, parce que je trouve qu'ils auraient pu participer à quelque chose où ils disent, ben regarde, tout le monde est en faveur de ça. L'environnement, évidemment, on est en faveur de ça.
Est-ce que je comprends le calcul qu'ils ont fait, Luc, c'est qu'ils se disent, il faut pas non plus faire monter trop les attentes par rapport à nos actions environnementales. Faut faire attention pour pas laisser croire aux électeurs qu'on va être un gouvernement vert alors qu'on n'a pas été élu là-dessus, puis notre base électorale, puis nos députés, c'est pas leur première priorité.
Oui,
la réponse à ça, c'est de leur dire, vous n'êtes pas obligés de virer Québec solidaire sur l'environnement, mais de manifester une sensibilité sur cet enjeu-là.
Il me semble.
Je pense qu'aujourd'hui, vous auriez dû le faire.
Il me semble, mais tu sais, il y a des régions du Québec, par exemple, à Québec, là, quand tu entends la radio à Québec, eux autres, ils parlent des environnementeurs. Il faut le faire, là, tu sais.
Alors,
c'est la base électorale de la CAQ, ne l'oublie pas. C'est Québec qui est leur base numéro un.
Alors, on va aller rejoindre Bernard. Bonjour, Bernard.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, je pense que peut-être que la CAQ a peut-être une certaine réticence à faire en sorte que les écoliers manquent l'école. Parce que on sait très bien que l'éducation, c'est important, puis plus la population est éduquée, plus ils peuvent être probablement sensibles et, justement, je pourrais dire, plus les acteurs importants dans le monde pour contrer contre la pollution puis contrer contre le climat. Alors, je ne sais pas si...
C'est possible.
Ce genre de manifestation-là, c'était samedi. Ben,
oui. C'est possible.
Ça a pu jouer, Bernard. Ça a pu jouer. Je trouve que vous amenez un bon argument. Le problème, c'est qu'ils ne me l'ont pas donné. Moi, j'ai passé une partie de la soirée à jaser avec eux autres, là, les gens de la CAQ, pour essayer de comprendre leur décision. Puis ils m'ont pas servi cet argument-là, Bernard. Ils m'ont pas dit, garde, nous autres, là, ce qu'on veut envoyer comme message, c'est quand tu vas à l'école, tu fais tes cours, puis tu sèches pas tes cours, même pour l'environnement. Mais ils me l'ont pas dit, ça.
Mais moi, j'aime.
Mais moi, je pense que si c'était un samedi, peut-être que le mouvement populaire serait plus important. Puis peut-être que les jeunes enfants pourraient y aller avec les parents, puis ça serait pas comme genre. En cachette, manquer ses cours, puis toute la dynamique parents-école.
Là, je vous rejoins.
C'est un samedi, ça.
Je vous rejoins complètement, monsieur.
C'est un mouvement qui serait...
Je pense qu'ils sont également conscients qu'un samedi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi ces jeunes-là qui choisiraient d'abandonner leur week-end de ski, leur ceci, leur cela. N'oublions pas ça.
Merci, Bernard, pour l'appel. Je veux juste rappeler à Bernard, qu'on vient d'entendre, et à Normand, qu'on va entendre dans un instant, qu'en 2012, Luc, tu t'en rappelles, en tout cas, moi, j'étais là. Il y avait eu 250 000 personnes qui avaient marché pour le jour de la Terre.
Oui.
C'était un 22 avril 2012. C'était absolument magnifique.
C'était
on avait
énorme.
Fait d'ailleurs les manifestants, on avait fait comme une espèce d'arbre. Ils nous avaient déployé là. Et puis la photo de loin, ça faisait comme un arbre avec tous les manifestants. C'était extraordinaire.
Non, c'était très très bien fait.
Tu te rappelles?
Oui, je me rappelle. Puis la journée de la Terre, ça fait longtemps que ça existe, la journée de la Terre. Là. Bon. C'est quelque chose de positif à mes yeux, la Journée de la Terre.
Bravo. Normand, bonjour.
Hey, salut. Moi, je me pose des questions, exemple, sur votre question à vous autres. Quand j'entends, moi, je pense que les ministres, ils ont beaucoup plus de travail à faire à Québec aujourd'hui que si tu me rentres le nez dans la rue, puis essayer de crier haut et fort. Tous ceux-là qui crient haut et fort aujourd'hui, qui sont dans la rue, là, qui sont pas à leur cours, soit dit en passant, puis qu'il y en a qui sont payés à rien faire au cégep, ils ont-tu le petit sac de papier, puis ils ramassent tous les petits papiers qui traînent sur le bord de la rue en même temps, en disant, regardez, nous, on fait notre part aujourd'hui, on ramasse, puis on ne pitche pas nos bottes de cigarettes, ouais, on les ramasse, on les éteint, on les ramasse en même temps. Montrez-nous l'exemple.
Normand, il y a quelqu'un tout à l'heure qui me soulignait la chose suivante, à Montréal, là, la manif, ouais, si je comprends bien, était dans le coin de la rue du Parc et tout. Ils ont comme bloqué la circulation routière complètement, ben oui, sur un secteur névralgique. Je ne sais pas s'ils ont pensé, ben oui, ce que ça faisait à l'environnement, c'est-à-dire d'avoir des voitures statiques avec les moteurs qui roulent.
Il y en a un là, qui se pointe à la télévision. Là. Il s'est pointé un matin ou hier. Là. Puis on fait la grève. Tu fais la grève de quoi, le grand? Tu vas à l'école. Tu n'as pas une grève. Va à l'école. Va étudier. Va faire ce que tu as à faire. Puis dimanche là, ou samedi, prends-toi dans la rue. Fais la même chose. En France, les gilets jaunes, ils font quoi? C'est les week-ends qui font ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres choses à faire dans la semaine. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils amènent de quoi manger. Mais eux autres sont à l'école, hey, une belle journée de congé en plein, hey, dans la semaine, demain, week-end de 3 jours, il y en a combien qui sont à Québec en train de faire du ski? Ou à Bromont, ou nomme-les toutes, les places sont là, il fait beau aujourd'hui, on va faire du beau ski. Ramasse ton petit papier, mon chum.
Merci, Normand. Merci pour votre
appel. C'est ce qu'on appelle péter la balloune.
Il vient. Oui, oui. Non, mais ça, c'est bon. C'est à ça que ça sert, prendre les appels. Parce que, comme je le dis tout le temps, on va sonder l'opinion publique. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a pas mal de monde qui pense comme Normand présentement.
Ben oui. Hein? Moi, je dis que je suis pas contre parce que j'aime bien la jeunesse quand ils se prononcent sur quelque chose. Mais pourquoi ils font pas le samedi ou le dimanche? Voyons donc. On le sait pourquoi. Il vient de l'expliquer, Normand.
Tu peux pas dire que c'est juste à cause de ça. Tu peux dire qu'il y en a que c'est pour ça, mais il y en a d'autres qui sont sincèrement préoccupés pour la suite des choses.
Bien sûr, j'en ai la larme à l'œil. Continue, Bernard.
Non, mais tu crois pas, tu penses pas qu'il y a des jeunes qui, tu sais, parce qu'il y en a trop qui disent ça pour pas que ça soit vrai pour certains d'entre eux, là, qui disent, ça donne quoi de m'éduquer? Ça donne quoi d'avoir des enfants, même si je me retrouve devant un non-avenir parce que on n'est plus capable de vivre sur notre bonne vieille terre,
ouais,
là?
Ben, moi, le discours apocalyptique sur l'environnement, je ne l'achète
pas. Apocalyptique.
Ben, c'est apocalyptique. C'est, tu viens de le dire, on sera plus.
C'est scientifique. C'est toi qui n'arrêtes pas de te réclamer des scientifiques quand ça fait ton affaire. Les scientifiques sont très clairs. C'est vrai. La planète continue à se réchauffer au rythme où elle se réchauffe présentement, on va être dans le trou.
Mais il faut que je te dise aussi, Bernard, que quand je sors socialement, des fois, puis je me retrouve dans des endroits où il y a une forte concentration de séparatistes, sais-tu de quoi je me réclame? Je me réclame de Bernard Drainville. Je leur dis, vous ne m'aimez pas. Mais non, je suis avec Bernard.
Luc, tu peux toujours te réclamer de Bernard. Bernard va veiller sur toi même quand t'es... Même quand t'es pas fin avec Bernard. Là, on va s'arrêter parce qu'au retour, parce qu'on va le faire une fois de temps en temps, puis plus on va se rapprocher des élections américaines, plus on va le faire. Le sort de Trump, ça nous a toujours intéressé, toi puis moi, puis il va se passer quelque chose après-midi. Hein, oui. Si je me trompe pas, c'est après-midi que ça va arriver.
15h30, je crois.
15h30, tu nous en parles après la pause.
Drainville PM. La voix est libre.
Bon, Luc Lavoie.
Bernard.
Tu vas me parler de Donald Trump.
Oui, ça va être la première fois aujourd'hui,
ouais,
que M. Trump va utiliser le veto présidentiel.
Le veto présidentiel, ouais,
Que ça vaut la peine d'expliquer brièvement que le président des États-Unis détient un veto sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire sur le Congrès. Et si le président impose son veto, la loi qui vient d'être adoptée par le Congrès devient invalide. Et là, il doit y avoir un deuxième vote au Sénat, où cette fois-là, aux 2/3, pour renverser un veto présidentiel, ça prend les 2/3 du Sénat. C'est assez unique à la politique américaine, à la Constitution américaine, ce mécanisme-là. Jusqu'à maintenant, Trump ne l'avait jamais utilisé. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va apposer son veto sur une loi qui lui interdit ou qui rend illégal son décret qui veut qu'on vive une situation d'urgence nationale à la frontière avec le Mexique, lui permettant ainsi de dépenser des milliards pour construire son mur, son grand fantasme de mur.
Mais là, je veux juste être bien clair, Luc, là, parce que nous autres, on suit ça là, comme on lit le New York Times, là, mais à un moment donné, il faut juste être bien clair. Trump, ce qu'il veut depuis qu'il est président, puis il s'est fait élire là-dessus en partie, c'est de dire, moi, là, je veux un mur entre les États-Unis puis le Mexique.
Ouais.
Il a réussi jusqu'à un certain point à obtenir quelque chose, là, c'est-à-dire un engagement de la part du Congrès de quoi? De mettre combien de milliards là, dans la...
Je me souviens pas du chiffre, mais il n'a pas obtenu son argent pour faire son mur comme il le veut.
Mais c'est il a obtenu un bout. Il a obtenu quand
un
même
petit bout parce
milliards.
Que les partis se sont trouvés dans une situation où autant les démocrates que les républicains ont été obligés d'affirmer haut et fort qu'ils avaient un problème avec l'immigration illégale. Là, il les a amenés au moins jusque-là. Mm-hmm. Mais de là à décréter une urgence nationale, c'est une urgence nationale, là, c'est quand tu as des émeutes raciales comme on en a connu dans les années 60, c'est quand tu as une situation de guerre, c'est quand... Alors là, ils ont dit, mais ça n'a pas de bon sens. Alors, ils se sont mis à s'opposer à lui et le Sénat est toujours contrôlé par les républicains, sauf que cette fois-ci, il y a 8 républicains et pas les moindres parmi quelques-unes de leurs plus grandes vedettes. Mitt Romney, son l'éternel, en tout cas l'adversaire juré de Trump. Lamar Alexander, qui est un sénateur extrêmement influent. Rand Paul, qui est un sénateur dont on parle beaucoup. En tout, 8 républicains se sont mis avec les démocrates puis ont réussi à faire adopter ça. C'est sorti de la Chambre des représentants où les démocrates ont maintenant la majorité. C'est arrivé au Sénat. Au Sénat, on s'est dit que ça va être battu. Eh bien non, il y a 8 républicains qui ont voté contre Trump. Et là, Trump a décidé de leur faire un pied de nez. Va signer le décret qui fait en sorte que son veto suspend la loi qui a été adoptée. Et bon. Il doit retourner au Sénat puis reprendre un deuxième vote, cette fois-ci, aux 2/3. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que c'est un petit jeu politique et probablement que le vote aux 2/3, le Sénat ne sera pas capable de le passer parce que là, ça prendrait considérablement plus de républicains que 8 qui traverseraient la Chambre pour aller voter avec les démocrates contre Trump.
OK. Fait qu'en bout de ligne, il arrive quoi, là?
En bout de ligne, il arrive que Trump va continuer à prétendre qu'il a le droit de décréter une urgence nationale et que là, ça va se retrouver très, très, très rapidement devant la Cour suprême. Je ne sais pas s'ils vont franchir les premières étapes ou s'ils vont pas faire une référence directe à la Cour suprême pour dire est-ce que le président des États-Unis dispose du pouvoir de décréter une situation d'urgence sur la base de rien. Il n'y a personne qui est d'accord avec l'idée qu'il y a une urgence nationale aux frontières. Il en traverse moins qu'il n'en a jamais traversé. Ben, pas qu'il n'en a jamais traversé. Il y a moins d'immigrants qui traversent illégalement la frontière au sud des États-Unis maintenant qu'il y en avait il y a 10 ans, qu'il y en avait il y a 15 ans, qu'il y en avait il y a 20 ans. En fait, les flux migratoires se sont inversés. Et d'autant plus que, quand bien même qu'il construit son mur, ça fera strictement rien pour empêcher l'immigration illégale, parce que les immigrants illégaux, ils n'arrivent pas nécessairement à pied en traversant le Rio Grande. Ils y arrivent aussi par avion, puis ils arrivent par bateau, puis ils arrivent par ceci, puis ils arrivent par cela.
Et par des tunnels.
Par des tunnels et tout ce que tu voudras, je veux dire.
Ben oui, construit sous le mur, le mur qui existe déjà, écoute, parce qu'il y a un bout du mur qui existe.
Il est tellement obsédé, Trump, que lors des élections de mi-mandat, là, l'automne dernier, il a déployé comme 18 000 troupes américaines sur la frontière. Beaucoup de généraux américains, sous le sceau de l'anonymat, ont dit que c'est un vrai scandale d'utiliser nos forces armées à des fins politiques comme celle-là.
Voilà.
Toutes les images qu'on a vues, c'était des militaires qui se prélassaient. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait rien à faire. Il n'avait pas d'urgence nationale. C'était complètement fabriqué. C'est dans le monde virtuel de Trump. Imaginaire de Trump. Les lubies, les phobies et tout ce que c'est tu veux et les manies de Trump sont exposées. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, les démocrates n'arrivent pas à lui faire ben du mal. C'est ça le problème. Et là, il va mettre son veto contre des républicains. Alors, mesdames et messieurs, allez comprendre quelque chose à tout ça. Si vous ne comprenez pas, joignez-vous à moi. Pas sûr, moi non plus, de comprendre la dynamique qui se déroule là-bas maintenant.
Tu auras la fin de semaine pour y penser. Prends un petit vino à notre santé, mon cher Luc, et puis on se reparle lundi.
Et je vais continuer de me réclamer de toi, Bernard. S'il vous plaît, sois indulgent à mon égard.
Luc, n'hésite pas. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi.
Bon
je
week-end.
Te pardonne. Va en paix maintenant.
Bon week-end, vieux frère.
Et on s'arrête parce qu'au retour, on veut se garder beaucoup de temps pour la chronique insolite de Christian Page. Et je vous dévoile aussi le nom du gagnant ou de la gagnante de notre paire de billets pour aller voir le Canadien.